OK, on va continuer notre série sur les disciplines spirituelles pour la piété dans la vie chrétienne. On va terminer la leçon sur la discipline de méditer la parole de Dieu. Alors, on va faire un bref résumé de ce qu'on a vu jusqu'ici pour pouvoir ensuite terminer la deuxième partie. On avait vu dans la première leçon que la méditation, c'est une discipline très négligé de nos jours, mais que beaucoup d'auteurs considèrent comme étant une discipline essentielle, une discipline qui aide à nous rapprocher de Dieu. Alors, les Écritures nous donnent beaucoup de versets pour nous commander de méditer. Et comme je vous avais montré au début de la série, je l'ai regardé deux, trois reprises depuis que j'ai commencé la série sur le monsieur qui jouait la guitare. Je trouve ça intéressant parce qu'il y en a au moins, je dirais, on est rendu à deux ou trois, des techniques, des disciplines spirituelles, donc lire la parole, méditer la parole, étudier, mémoriser. Mais qu'on les ait vus toutes les 20, là, on se rend compte que, en tout cas, moi, je me rends compte que je les pratique pas tous. Si je veux devenir une virtuose de ces choses-là, il faut premièrement que je me rends compte de celles que je fais pas, puis des intégrer dans ma vie. Comme là, j'ai commencé à mémoriser, et j'ai fait encore du progrès. Je n'ai appris quatre autres depuis. Et je veux continuer. Je veux vraiment continuer. Parce que je sais que si on fait juste entendre. De toute façon, la Bible nous avertit qu'entendre la parole sans changer quelque chose, c'est se mentir à soi-même. Alors, il faut que quand on entend quelque chose que Dieu nous commande, il se rende compte, est-ce que je le fais? Bien, si je ne le fais pas, il faut que tu l'introduises dans ta vie, puis que tu te dis, ça le dit, c'est une discipline, il faut que tu te disciplines à l'intégrer dans ta vie. Juste pour vous dire ça. Et on avait vu dans le psaume 1, verset 2, ça dit, « Mais qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite sa loi jour et nuit. » Ça implique vraiment qu'on l'a, je pense que la mémorisation sert à rentrer la parole dans notre cœur, dans notre être. Et la méditation, si tu assis par cœur, à n'importe quel temps, tu peux t'assis dans ton auto en train de te raser, en train de faire de la cuisine, et tu fais remonter les versets. Et c'est ça, méditer. Et on se rend compte, si on est le moindrement honnête, là, qu'on ne médite pas tant que ça. Alors, on avait vu qu'on avait donné une définition biblique de la méditation qui est une réflexion profonde sur les vérités et les réalités spirituelles révélées dans les Écritures dans un but de compréhension, d'application et de prière. Parce que la méditation amène à la prière. Vous allez voir, quand on va regarder les questions qu'on nous suggère quand on lit la parole, qu'on nous suggère de se poser quand on veut méditer, ça nous amène à prier. Par exemple, quand on pose la question, y a-t-il quelque chose dans le texte qui me fait connaître un autre aspect de Dieu? Si on l'a découvert, on dit, oh Seigneur, merci. Ça peut être une occasion de merci, mais ça t'amène à la prière. Alors, il y avait le pasteur Whitney qui nous avait donné l'exemple du chrétien avec la poche de thé, la poche d'eau chaude et la poche de thé. Il disait que c'était la poche de thé, c'est comme l'eau chaude, c'est nous, puis la poche de thé, c'est vraiment l'entrée de la parole en nous. Si on fait juste saucer une fois, il en reste, mais il en reste pas beaucoup. Si on sauce deux fois, il en reste plus, puis cinq fois, puis si on la laisse tremper dedans, c'est vrai que c'est des exemples qui sont tirés de la vie quotidienne, mais qui sont réels par rapport à la vie spirituelle aussi. Alors, on parlait de que la méditation, c'était absorber la parole. Alors, on avait vu la première leçon, pourquoi méditer la parole? Parce que, premièrement, elle forge notre caractère et notre destinée. On avait vu aussi quelques questions qu'on se doit de se poser pour examiner, pour savoir si on est vraiment dans un état de méditation. Savoir, autrement dit, qu'est-ce qu'on est en train de penser? Si on ferait les 15 questions qu'on avait regardées dans la première leçon, là, on se rend compte que ce qu'on pense ne correspond pas avec ce que Dieu nous dit que nos pensées devraient être. Deuxièmement, pourquoi qu'on doit méditer? Parce que notre vie intérieure est une représentation de notre vrai nous. Autrement dit, ce qui se passe en nous finit par se refléter dans ta vie extérieure. Et troisièmement, pour une raison extrêmement simple, parce que Dieu le commande. C'est intéressant de se souvenir que Dieu nous suggère pas. S'il nous le commande, puis qu'en entendant un sermon, on se rend compte que je le fais pas, selon vous autres, vous êtes dans quel état? Désobéissance. Autrement dit, tu sais ce que Dieu te commande, puis tu le fais pas. Moi, j'ai déjà fait de l'armée, puis je peux vous garantir une chose, que si j'avais rencontré un officier, un capitaine, un major, un lieutenant-colonel, ou n'importe quoi, puis il m'aurait dit... Soldat Longchamp, je veux que vous fassiez telle affaire. J'aurais eu affaire à obéir. Puis c'est juste un homme. Mais Dieu nous commande des choses, puis nous, on a assez de folie pour ne pas obéir. C'est que, quelque part... Mais il faut changer ça dans la vie. Et on avait aussi regardé le deuxième point. Qu'est-ce que méditer la parole? On avait vu que c'était... Il y a plusieurs idées qui sont véhiculées par le concept de méditation. Le premier, soumettre à une longue et profonde réflexion. Deuxièmement, penser longuement, calmement et profondément. Et troisièmement, peser dans ton esprit différentes choses. Et c'est de chercher aussi comment mettre en pratique et appliquer un texte de la Bible. Voyez-vous, la semaine dernière, je vous ai donné, c'est les 10 questions qu'on aurait intérêt à copier sur une feuille, puis mettre la feuille à quelque part dans ta Bible, puis chaque fois que tu lis ta Bible, tu sors ta feuille, puis tu te prends un petit cartable, puis tu t'habitues à répondre par écrit aux questions. Alors, par exemple, quand je l'ai dit, le texte m'apprend-il quelque chose que je dois croire par rapport à Dieu? Ou une nouvelle lumière sur Christ, sur le Saint-Esprit, sur l'homme, sur Satan? Tu lis ton texte, puis si tu réponds, c'est sûr que toutes les 10 questions ne peuvent pas s'appliquer à tous les textes. Mais si tu les lis systématiquement, puis que dans ton texte, tu as vu quelque chose sur Satan, ben tu te rends compte d'une caractéristique de Satan. Pis là, tu le marques. Moi, j'ai remarqué que Satan, il fait telle affaire. Il pose des questions pour t'induire en erreur, etc. Mais si vous faites ça régulièrement, avec tous les chapitres. Mais vous ne pouvez pas prendre tous les chapitres. Dépendamment, disons, ils disent qu'il y a quelqu'un qui veut lire la Bible une fois en un an, il faut qu'il lise au moins à peu près 4 chapitres par jour. Parce que ça disait, disons, tu fais Genèse 1, 2, puis Matthieu 1, 2, 3 ou 4 chapitres, en général, à peu près. Fait que quand tu lis ton chapitre, c'est sûr que si tu réponds à ces 10 questions-là, c'est ça qui t'habitue à vraiment méditer. Parce que des fois, on peut lire la parole, c'est bien, il faut le faire, mais il faut aussi méditer. Donc, méditer, les questions, ces questions-là vous aident à méditer. Autrement dit, en bas là, de la page 7, je disais, en un mot, apprenez à questionner le texte que vous lisez ou étudiez dans le but d'en tirer une application pratique. On devrait toujours lire la parole de Dieu et regarder... On prend l'exemple de dimanche. On regarde ça, puis le dimanche, on étudie un texte dans Genèse. On étudie... c'était quoi le nom du personnage, déjà?
Joseph.
T'as pas Joseph, ça, c'est dimanche. Ça, c'est l'autre dimanche avant. On étudiait quoi?
Judas.
Comment?
Les enfants de Judas, non?
Les enfants de Judas, oui. Judas, il y avait la Tamar et tout ça. Bon, quand on lit un texte comme ça, c'est quand même un texte assez long, là. Si vous prenez ces 10 questions-là, puis vous les appliquez au texte que vous lisez, ça c'est un chapitre, vous allez voir qu'il en sort du jus. C'est là que le jus sort. Alors, et aussi, on avait dit qu'est-ce que la médecine de la parole, c'est aussi approcher le texte dans le but de mieux le comprendre, de mieux s'en souvenir et de mieux adorer. On était rendu, OK, on avait utilisé l'exemple de Ésaïe 26:3 pour voir, OK. Là, on est rendu là. Il faut, quatrièmement, que tu relies le verset, relier le verset ou le passage à votre situation personnelle. Donc, ici, prenez l'exemple de Ésaïe 26:3. Supposons que vous êtes porté à l'anxiété, ce qui, de nos jours, est très répandu. Que vous êtes troublé et que vous n'avez pas la paix intérieure. D'après vous autres, c'est tout ça fait qui nous arrive assez souvent, ça. Vous savez que cela ne plaît pas au Seigneur, mais vous n'arrivez pas à changer. Vous décidez de méditer sur Ésaïe 26:3. Vous vous posez alors les questions suivantes en vous servant d'Ésaïe 26:3. Que veut dire avoir la paix? Est-ce qu'elle est vraiment à ma portée? Comment puis-je me confier davantage en Dieu? Et, la dernière question, si je m'efforce de remplir les conditions, puis-je me prévaloir de cette promesse? Quand on la lit, Ésaïe 26:3, c'est court comme message, là. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi. Prenez ce verset-là, puis étudiez-les d'aplomb, puis questionnez-le avec les questions qu'on a regardées, puis vous allez voir que, dans le fond, c'est vrai que ça nous amène à réfléchir à ce que Dieu nous dit. Alors, faites aussi la liste des choses qui vous troublent et posez-vous les questions suivantes. Disons que vous êtes dans un état d'anxiété, vous êtes troublé. Là, ça dit, « Suis-je prêt à remettre ces choses entre les mains de Dieu et à compter sur lui pour leur dénouement? » Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans nos vies, là, qu'on est tout énervé, là, est-ce qu'on peut aller auprès de Dieu et dire, « Seigneur, comment je voudrais essayer de changer la situation que je vis? Là? Je ne serais pas capable de la changer. » De lui remettre sincèrement à lui qu'il soit capable de l'arranger. Après ça, « Suis-je prêt à m'efforcer de garder le Seigneur et sa parole au centre de mes pensées? » Quand tu vois que tu es anxieux comme ça, là, c'est parce que tes pensées ne sont pas sur le Seigneur, sont sur toi-même, sont sur ta souffrance, sont sur tes soucis. Autrement dit, il faut que tu sois prête à y donner à lui, mais il faut que tu sois prête aussi à mettre sa parole et sa personne au centre de tes pensées et chercher à enlever ce qui t'éloigne de lui. Et lorsqu'on médite les promesses certaines de Dieu, est-ce qu'on est prêt à y croire et est-ce qu'on est prêt à agir en conséquence? L'inquiétude et l'attention feront place alors à la confiance et à la paix. Vous, c'est intéressant, on le relit 26:3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix. Il répète deux fois le mot la paix. Parce qu'il se confie en toi. Autrement dit, quand on se confie en Dieu, normalement, ça devrait résulter qu'on ait la paix. Et il dit deux fois. Juste un petit verset comme ça, là, déjà nous dit plein de choses par rapport à notre manière d'être et à notre relation avec le Seigneur. Et aussi, cinquièmement, priez lorsque vous méditez. La prière devient naturelle, fait partie naturellement de notre méditation. On peut considérer longuement la parole sans être amené à en parler au Seigneur. La prière combinée à la méditation est une conversation avec Dieu. Elle rend la parole vivante dans les expériences quotidiennes. David priait, « Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Psaume 119, verset 73. Et maintenant qu'on a établi ces questions-là et répondre par écrit, garder un cartable ou n'importe quoi, c'est de persévérer. Parce que c'est bête trop facile de commencer. On commence, fait 2-3 jours. « Ah, ben, attends, il n'y a pas le temps. Première nouvelle que tu sais, c'est fini. » Persévérer, ça veut dire que quand tu commences quelque chose, un peu comme quelqu'un qui apprend à jouer de la guitare, il apprend un nouvel accord, s'il fait juste le jouer deux, trois fois, deux jours après, il va l'avoir oublié. Mais s'il pratique, il l'oubliera jamais. Alors, c'est la même chose dans les choses spirituelles. Troisièmement, on va regarder que devons-nous méditer dans la parole de Dieu et quand. Alors, qu'est-ce qu'on doit méditer dans la parole de Dieu? Bien entendu, on se doit de méditer sur la personne même de Dieu et aussi ses œuvres. Quand on dit la personne du Père et son œuvre, la personne du Fils et son œuvre, la personne du Saint-Esprit et son œuvre, il y a énormément de choses à dire. Il y a des briques à dépêche qui ont été écrites sur chacun de ces sujets-là. Les personnes, l'œuvre des trois personnes de la Trinité. Alors, il y a de quoi méditer dans la Bible. Il y a énormément de quoi à méditer. Alors, qu'est-ce qu'on se doit de méditer? Les choses que Dieu a faites pour moi et pour les autres. Des fois, t'arrêter, garder ce qu'un verset nous dit que Dieu nous a bénis, toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu lis ça, puis là, tu te dis, il m'a béni comment, moi, le Seigneur? Tu sais, le verset, il faut qu'il te dise de quoi, puis après ça, tu le questionnes. Il m'a béni. Il dit qu'il m'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais comment ça s'est réalisé dans ma vie de tous les jours? C'est ça, méditer. Tu prends un verset, puis tu y mets du jus dedans. Deuxièmement, la sainteté et les perfections infinies de Dieu. Ça, si tu veux méditer là-dessus, là, tu l'as pour le restant de tes jours. Là. Parce que la sainteté de Dieu, si quelqu'un ferait une étude, puis sortirait tout ce que la Bible dit sur la sainteté de Dieu, puis t'étudierais tous ces versets-là, puis t'es méditerais tous, tu n'as pas le restant de tes jours. Après ça, on parlait de la beauté de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Ça, je vais dire, ceux qui ont lu le petit livre, là, comment il s'appelait, là, Connaître Christ, moi, je l'ai lu, et en le relisant, ça te fait revoir des choses que des fois tu as oubliées un petit peu. Et ça, c'est très intéressant. Juste ce livre-là, Connaître Christ, le relire et regarder les versets, vous allez apprendre une multitude de choses sur Jésus-Christ. Sur notre vie dans le ciel, sur les innombrables et insondables bénédictions qui s'y rattachent. Prenez, par exemple, tous les versets qui parlent de notre futur destiné dans le ciel, avec tout ce que ça implique, méditez là-dessus. Et bien entendu, des passages spécifiques, les hauts faits de Dieu. Quand on lit, par exemple, dans le livre des psaumes, louez Dieu pour ses hauts faits. Quel est le psaume qui dit ça? Psaume 150. Louez Dieu pour ses hauts faits. Là, on lit ça, et ça nous donne un ordre. Louez Dieu pour ses hauts faits. Qui prend le temps de dire quels sont les hauts faits de Dieu? Puis les nommer. La création, la providence. Et là, aller chercher plein d'exemples que tu te souviens dans l'Ancien Testament. Tes hauts faits. Séparer la mer Rouge. Il y en a plein de hauts faits dans les Écritures. Mais quand on lit louer Dieu pour ses hauts faits, quels sont ceux d'entre nous qui se disent mais quel haut fait? Va en chercher dans ta tête des hauts faits. C'est ça, méditer. Après ça, les décrets de Dieu et son absolue souveraineté. Ça, j'avoue, parlais justement avec un pasteur après-midi de France. J'ai dit, comment ça va, vous autres, en France, les églises? Entre nous, ça va pas bien mieux que nous autres. Puis je pense que c'est encore pire. Parce qu'il disait que les Français, c'est pas pour les ils ont une caractéristique depuis qu'ils ont fait la Révolution française. C'est des gens extrêmement critiques et avec l'esprit extrêmement large. J'ai lu ses propres mots qu'il me disait cet après-midi. Il dit, ils ont l'esprit tellement large là, que c'est presque pas croyable tout ce qu'ils peuvent avaler. Il dit, c'est très difficile. Il me racontait que souvent les gens arrivent à l'église et ils ont connaissance à peu près zéro. Il faut y prendre comme au berceau. Nous, on arrivait au Seigneur, on avait quand même une certaine connaissance qu'on nous avait appris dans le petit catéchisme, des affaires de main. Mais c'est plus ça aujourd'hui, là. Tu prends les gens, là, c'est comme connaissance zéro. Surtout depuis qu'il y a instauré dans les écoles de ne plus enseigner, et c'est l'ignorance crasse. Alors tu les prends de là, tu essaies de les monter. C'est une grosse job. Vraiment une grosse job. Alors, les décrets de Dieu, son absolue souveraineté, me racontaient les difficultés aussi qu'il y avait avec les gens qui sortaient de certains milieux. Certains milieux sectaires, parce que mon appareil m'a parlé, il m'a fait faire un show. des sectes et des choses, les personnes arrivent des sectes, ils disent ça prend des semaines, des mois, des années. Et j'ai vu des personnes arriver complètement brisées parce qu'ils vivaient dans un milieu où on disait Dieu m'a dit de te dire. Puis, il dit, la femme est arrivée, elle était dépressive au maximum. Alors, il dit, il faut reprendre ces gens-là où ils sont, puis de les reconstruire. C'est tout. Mais, une bonne façon de le faire. Puis, il dit, il y en a un qui est arrivé, il était dans un état comme ça, puis il dit, il a lu le livre de Arthur Pink, La souveraineté de Dieu, puis il dit, oups! Bon, c'est la preuve que c'est la doctrine qui construit. Sur la volonté de Dieu, sur le salut, sur l'esclavage à Satan, sur l'esclavage du monde, l'esclavage à notre chair, qu'on est maintenant libéré dans la mesure à notre obéissance, et sur d'innombrables autres sujets bibliques. Quand vous prenez, je ne sais pas si on a des Bibles d'études, je ne sais pas s'il y en a qui ont la Bible Thompson chez eux, là. La Bible Thompson, quand tu lis à la fin, il y a une multitude de sujets. Si tu veux méditer, là, tu vas chercher un sujet là, puis ils appellent ça des versets à la chaîne. C'est des chaînes. Tu commences par un, puis le un, il va te donner il va te dire d'aller avoir un autre, puis l'autre va te dire d'aller avoir un autre. C'est une belle façon de méditer. Tu prends un sujet qui t'intéresse, puis tu fais ça. Il y a tellement de méthodes, mais il faut vouloir. Moi, j'avoue que ce que j'ai vu dans les églises, dans le passé, y compris dans ma propre vie, moi, je vais dire, ça fait 40 ans que je suis chrétien, puis j'ai jamais entendu un seul sermon dans 40 ans sur la méditation. Pourquoi je ne médite pas? Ben simple, parce qu'on ne nous l'a pas enseigné. Alors, de la même manière que notre système digestif digère la nourriture que nous lui donnons, de la même manière, les versets vont entrer en nous et vont nous nourrir et vont... on les reçoit et ils finissent par faire partie de nous. J'écoutais cette semaine, faut que je fasse écouter ça une bonne fois. C'est un pasteur américain qui a écrit une petite brochure sur comment on doit méditer, comment on doit mémoriser la parole de Dieu. Fait que moi, je me dis, si tu me dis quoi faire, ça doit être parce que tu sais quoi faire. Mais la meilleure preuve... Il dit, moi, il y a un an et demi, j'ai commencé à apprendre par cœur 1 Corinthiens, 16 chapitres. Et là, il dit, là, pour vous montrer que j'ai persévéré pour le sermon du dimanche, il a donné 1 Corinthiens, à partir du verset 1 jusqu'au 16e chapitre, dernier verset, mais... dit dans un état d'esprit où c'est pas comme si il répétait comme un perroquet, mais il s'adressait aux gens comme s'il avait été Paul qui aurait parlé aux Corinthiens. Mais c'était... Moi, j'étais là, je dis, wow! C'est vraiment, il faut le faire, là. Il faut s'essayer, là. Juste d'en mémoriser un ou deux, on se rend compte de la difficulté. 16 chapitres, puis en plus, t'as assez de gosses pour aller dire ça devant ton église, et il n'y avait pas une. Il ne s'est pas chuté une fois. C'était très impressionnant. C'est la preuve que quand on veut, on peut. Alors, maintenant, la deuxième question qu'on a de parler, on a dit quand méditer. Si tu veux méditer dans ta vie, c'est comme dans n'importe quoi, il faut que tu choisisses des moments précis de la journée. Soit le matin, soit le midi, soit le soir, n'importe quel moment qui fait ton affaire à toi. Idéalement, moi, je pense que c'est au début de la journée, quand tu es frais et dispo, de te choisir un moment. Tu n'es pas obligé au début d'y consacrer beaucoup de temps. Tu peux dire, je vais faire ma lecture, ça va prendre, tu lis tes trois chapitres, tu décides que tu vas lire ta Bible dans un couvert à l'autre. Trois chapitres, et tu dis, ben, je vais prendre un des trois chapitres, celui où j'ai senti que Dieu me parlait le plus, et je vais prendre ces questions-là, puis je vais le faire. Puis persévère. Alors, idéalement, c'est en début de journée, mais aussi en profitant de tous les moments, en conduisant, en attendant, avant de dormir, au milieu de la nuit. À ce moment-là, j'ai commencé ça hier, on s'est couché, j'ai dit, veux-tu que je te récite les sept premiers versets de l'Apocalypse? Elle a dit oui.
Ah oui.
Ah oui. Un matin, quand je me suis levé, j'ai dit, je me souviens-tu de ce que j'ai étudié hier? J'ai dit, je vais essayer de les dire sans me tromper. Ça s'en vient pour les sept. Mais je voudrais en avoir 10 pour dimanche. OK. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Est-ce qu'on est conscient des profondes bénédictions qui sont rattachées à la pratique de la méditation biblique? On devrait l'être un peu, là. Quoiqu'il y a beaucoup de littérature sur Internet qui a été écrite sur les cinq sujets, là. Lire la Bible, méditer la Bible, mémoriser la Bible, étudier la Bible, écouter la Bible. Il y a plein de sites web où il y a des ressources extraordinaires. Fait que si tu ne sais pas comment étudier la Bible, tu veux l'étudier, là, c'est pas les ressources qui manquent, je vous le dis. Deuxième application. Demandons à Dieu de nous donner la grâce de désirer intensément de méditer et de l'installer définitivement dans nos habitudes quotidiennes. Moi, je reviens avec mon histoire de la guitare. Il n'y a jamais un homme qui va jouer de la guitare comme on a vu que je vous ai montré s'il ne pratique pas. Puis il faut qu'il n'ait pratiqué une méchante shot pour arriver à faire ça. Mais dans les disciplines spirituelles, si tu décides que tu veux mémoriser, ben si tu fais une journée et tu abandonnes, tu ne maîtrises pas la discipline de mémoriser la parole. Ça fait partie des commandements que Dieu nous donne. Mais si on l'installe, puis qu'on persévère, puis qu'on fait les efforts, ça demande du jus. Le gars, il dit, le pasteur qui a appris ça aux États-Unis, là, il dit, faites-vous pas d'illusions, j'ai sué. Ça a l'air tellement facile quand tu le regardes faire, puis tu regardes dans la Bible, puis il dit quelle version qu'il utilise, puis tu peux le suivre. Là. Il se trompe pas, là. Il dit ça, puis ça coule. C'est beau d'écouter ça. Mais lui, un Corinthien, quand il va le prêcher, là, il ne pose pas de questions sur un Corinthien, parce que ça sort facilement. Troisième application, suis-je disposé à consacrer du temps au Seigneur pour ce très saint et très profitable exercice? Est-ce que je vais m'y livrer dès aujourd'hui? J'avais envie de marquer dans ma dernière question, est-ce que je vais me livrer dès demain? Mais vu qu'on est tout le temps porté à remettre à demain, pourquoi pas aujourd'hui? Apprends-en rien que la moitié d'un aujourd'hui. Disons que tu dirais, je veux commencer à mémoriser. Apprends-en rien que la moitié d'un aujourd'hui. Mais tu as commencé au moins. Puis persévère. Première nouvelle que tu vas savoir, tu vas tout nous réciter des centaines de versets devant nous autres, tu vas nous impressionner. On ne fait pas ça, on ne doit jamais faire ça pour impressionner. On fait ça pour rentrer la parole de Dieu dans nos esprits, dans tout notre être, de manière à ce qu'elle devienne, qu'elle nous transforme, elle nous change, et qu'elle devienne une ressource aussi quand on vient pour témoigner. On est calme. Moi, je vous le dis, le chrétien qui m'a amené au Seigneur, j'étais vraiment un jeune chrétien. Ce qui m'a impressionné, c'était de le voir se promener dans son livre, puis je voyais qu'il connaissait son livre. Ça m'impressionnait. Quelqu'un qui me parle, puis qui ne sait même pas de quoi il parle, puis il cherche un passage, ça il prend 2 heures avant de le trouver. Il me dit, bon. Il dit, c'est important la Bible, mais ça ne paraît pas. OK, que l'Éternel soit loué, béni et adoré éternellement. Amen.
Amen.